Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette édition de notre programme. Plus d'un mois d'hospitalisation pour le pape François et les initiatives de prière pour sa guérison se poursuivent à travers le monde entier. Jeudi 20 mars, dans l'église du Gesù de Rome, Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales, a présidé une célébration eucharistique, indiquant dans son homélie que dans sa fragilité, le pape reste au service de l'humanité. Le groupe des ambassadeurs africains accrédités près le Saint-Siège a aussi prié jeudi pour la santé du pape dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Vous entendrez l'ambassadeur Antoine Zanga du Cameroun et doyen de ce groupe de diplomates africains pour qui cette messe traduit la proximité de l'Afrique au successeur de Pierre. Au Bénin, un colloque international sur l'inculturation se prépare en hommage à Mgr Barthélemy Adoukounou, évêque béninois, secrétaire émérite du Conseil pontifical pour la culture. Le projet vient d'être présenté à Mgr Roger Mbedji, président de la Conférence épiscopale béninoise. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Dans l'actualité sociopolitique africaine, nous serons notamment au Burkina Faso, où la justice a annoncé l'ouverture d'une enquête après des appels à extermination d'une communauté dans le pays. Et l'Église, face à une telle situation, ne cesse d'appeler à une cohésion sociale entre les fils et filles du Burkina Faso. Vous entendrez à ce sujet Constantin Safani Tchassere, secrétaire général de l'OCADES Caritas Burkina. Il reviendra justement sur cette crise que traverse le pays. Et nous terminerons cette édition par le magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine.
Radio Vatican, France et Afrique. Françoise Niamier.
Hospitalisé depuis le 14 février à la polyclinique Jamali de Rome pour une pneumonie bilatérale, l'état de santé du pape s'améliore et les initiatives de prière pour sa guérison se poursuivent à travers le monde. Et chaque jour est organisée la prière du rosaire pour sa guérison sur la place Saint-Pierre. Une autre initiative de prière pour le rétablissement du souverain pontife, la messe célébrée par Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales, le jeudi 20 mars en l'église du Gesù à Rome. Dans son homélie, Mgr Gallagher a souligné la gratitude du pape François pour la proximité des fidèles et leur prière abondante qui monte au ciel pour lui. Le secrétaire pour les relations avec les États s'est ensuite attardé sur la menace du mal qui est de plus en plus présente dans les pays en guerre, indiquant que nous avons besoin d'une diplomatie détachée des intérêts humains misérables en faveur du bien commun. En outre, Mgr Gallagher a exhorté à profiter du carême pour faire silence et entrer dans ce sanctuaire intérieur de la conscience en nous confiant à la Vierge du silence, à qui il a également confié la santé du pape François et la paix dans le monde. Les diplomates africains accrédités près du Saint-Siège portent également le pape en prière. Ils ont organisé une messe jeudi 20 mars dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Elle a été présidée par le cardinal Peter Turkson. Dans son homélie, le cardinal Ghanéen a invité à garder l'espérance face aux épreuves. Au thème de cette Eucharistie, l'ambassadeur Antoine Zanga du Cameroun et doyen du corps diplomatique africain accrédité près le Saint-Siège a exprimé la proximité et la solidarité de tout le continent africain au Saint-Père. On l'écoute.
Le Saint-Père est malade, c'est pour ça que nous sommes venus, nous les ambassadeurs du continent africain, nous sommes venus supplier le Seigneur pour qu'il lui redonne des forces, qu'il le guérisse, pour qu'il continue la mission qui lui a été confiée. Voilà. Nous demeurons dans l'espérance. Le pape lui-même, il a lancé le jubilé de l'espérance. Alors c'est l'espérance dans le Seigneur. Nous avons espérance que le Seigneur remettra le Saint-Père sur pied et nous prions pour que le Saint-Père lui-même ait l'espérance dans le Seigneur. L'Église en Afrique est aux côtés du pape. Je suis en contact avec un certain nombre d'évêques, de cardinaux africains qui me confirment qu'ils ont eu à organiser des messes pour implorer la clémence de Dieu sur le Saint-Père.
L'ambassadeur Antoine Zanga du Cameroun est doyen du corps diplomatique africain accrédité près du Saint-Siège. Poursuivons cette édition lors de sa première prédication de carême au Vatican, vendredi 21 mars. Le père Roberto Pasolini, prédicateur de la maison pontificale, a déroulé sa méditation autour du thème « Enraciné et fondé dans l'espérance d'une vie nouvelle », revenant en particulier sur l'épisode du baptême du Christ et ses implications pour notre vie spirituelle. Devant les membres de la curie romaine, depuis la salle Paul VI, le religieux capucin a tout d'abord tenu à adresser quelques mots au pape François, toujours hospitalisé. Nous saluons chaleureusement le Saint-Père qui ne peut pas encore être parmi nous. Nous espérons qu'il le sera bientôt et nous continuons à l'assurer de nos prières. Le Bénin pour poursuivre. Un groupe d'universitaires catholiques béninois a rendu public vendredi 17 mars le projet d'un colloque international en hommage à Mgr Barthélemy Adoukounou, évêque béninois, secrétaire émérite du Conseil pontifical pour la culture et, depuis les années 70, l'un des pionniers des travaux en vue de l'inculturation de l'évangile dans le pays. Le projet a été présenté à Mgr Roger Mbeji, archevêque de Cotonou et président de la conférence épiscopale du Bénin. Notre correspondant dans le pays nous en dit plus sur ce colloque international prévu en août 2025.
Vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. C'est entre autres en réponse à cet appel du pape Paul VI le 31 juillet 1969 en Ouganda que le père Barthélemy Adoukounou, devenu évêque en 2011, initie en 1970 le mouvement d'inculturation de l'évangile au Bénin. 55 ans après, des laïcs universitaires béninois, réunis dans le cercle des laïcs amis de Mgr Adoukounou Barthélemy, veulent, à travers un colloque international prévu pour août 2025, évaluer le parcours de l'œuvre et rendre hommage à l'initiateur. Professeur Florentin Nangbé, président du comité d'organisation.
Nous avons voulu voir l'évolution du mouvement d'inculturation de la foi chrétienne en Afrique, voir les méthodes d'inculturation que nous avons développées jusque-là, s'il y a lieu de les actualiser et voir l'impact de ce mouvement d'inculturation de la foi chrétienne sur la liturgie et les pratiques religieuses locales. Nous voulons également regarder les défis de l'inculturation dans un contexte de mondialisation, voir l'analyse de la pensée théologique de Mgr Adoukounou Barthélemy et sa vision de l'inculturation du christianisme en contexte africain. Les perspectives pour poursuivre et approfondir l'inculturation du christianisme en Afrique aujourd'hui dans la logique de la réflexion de Mgr Adoukounou.
Cotonou, juste Rlanon pour Radio Vatican.
L'armée soudanaise a annoncé avoir repris vendredi le palais présidentiel dans le centre de la capitale Khartoum après une bataille acharnée avec les paramilitaires des forces de soutien rapide près de 2 ans après le début de la guerre. Plus de 100 000 personnes fuyant le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo ont trouvé refuge en moins de 3 mois dans les pays voisins. C'est ce qu'a indiqué vendredi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR. 18 journalistes ont été violemment frappés par des militaires et des membres d'une unité antiterroriste ougandaise alors qu'ils couvraient une élection locale à Kampala la semaine dernière, a dénoncé Reporters sans frontières qui s'inquiète d'une répression accrue à 1 an de la présidentielle. Au Burkina Faso, le procureur a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pour des appels à exterminer une communauté dans le pays. Ces messages haineux, selon le procureur, assortis de fausses informations, constituent des infractions de discrimination, de mise en danger délibéré de la personne d'autrui et d'incitation à la commission de crimes ou de délits, infractions prévues et sanctionnées par le code pénal burkinabé. De Ouagadougou, le point avec notre correspondant Lamine Traoré.
Le communiqué est signé par le procureur du Faso, Blaise Bazier, qui dit avoir constaté que des individus à travers leur profil ou page Facebook s'adonnent à des publications, des commentaires de soutien et des partages massifs sur les réseaux sociaux de messages d'appel à l'extermination de personnes appartenant à un groupe ethnique au motif que ces personnes seraient les terroristes qui endeuillent les Burkinabés. Ces messages haineux constituent, selon le procureur, des infractions. Il annonce alors l'ouverture d'une enquête à l'encontre des auteurs de ces publications incriminées, assurant leur interpellation prochaine. Le procureur a rappelé la nécessité pour chacun de se départir des discours haineux qui mettent à mal, dit-il, notre vivre ensemble. Un communiqué en lien avec les événements de Solenzo où le gouvernement a annoncé la semaine dernière avoir convoyé 305 personnes à Ouagadougou qui étaient utilisées par des terroristes comme boucliers. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
Et l'Église, face à une telle situation, ne cesse d'appeler à une cohésion sociale entre les fils et filles du pays, rapporte le père Constantin Safanichesere, secrétaire général de l'OCADES Caritas Burkina. Il revient sur la crise actuelle que traverse le pays.
Il y a des violences de façon récurrente et il y a des dizaines et des dizaines d'incidents qui sont rapportés pour le besoin donc de l'humanitaire. Quand les terroristes viennent attaquer, il y a des pertes en vie civile. Ce n'est pas simplement les forces de défense et de sécurité et les volontaires de défense de la patrie que les terroristes attaquent. Il y a eu des fois où c'est de façon indiscriminée. Les terroristes ont eu à tirer sur les gens dans les villages.
Le Burkina continue de faire face à ces attaques terroristes meurtrières. Quelles sont aujourd'hui les zones les plus affectées par ces attaques ?
Les zones ou les régions les plus affectées au Burkina, c'est d'actualité, c'est l'Ouest Burkina, particulièrement la région de la boucle du Mour, la région aussi de la Koumoué, et de l'autre côté, c'est la région, la partie Est qui est touchée, et enfin, la région donc du Sahel et du Nord. En fait, c'est comme si c'est toutes ces régions qui font le pourtour du territoire qui sont les plus touchées. Et plus on avance, c'est comme si les terroristes restaient toujours donc vers l'extrême. Quand un village est attaqué, les populations, quand elles sentent qu'elles ne peuvent plus rester donc dans ce village ou dans cette commune, vont se déplacer généralement vers le centre de la commune, qui généralement est quelquefois stable. Et quand c'est la commune qui est touchée, les gens vont se déplacer vers le chef-lieu donc de la province, au niveau donc des frontières. Il arrive que donc ces populations traversent la frontière pour aller dans un autre pays, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin. Il y en a même qui se sont aussi réfugiés au Mali et au Niger, bien que on soit tous victimes donc de l'insécurité.
La Caritas reste au chevet des déplacés internes. Ce réseau national est représenté dans 15 diocèses du Burkina. Comment la Caritas s'organise pour porter assistance à tous ces déplacés et ces victimes de ces violences ?
Quand il y a des attaques, dès que c'est possible et qu'on a quelque chose, on apporte ce dont les gens ont besoin immédiatement, donc de la nourriture, des vêtements, des ustensiles, des nattes, des couvertures. On essaie de parer au plus vite. Nous rencontrons les mêmes difficultés en termes d'accès humanitaire que les autres organisations humanitaires qui interviennent au Burkina Faso.
En cette année sainte, année jubilaire, placée sous le signe de l'espérance, comment ranimer l'espérance sur cette terre du Burkina meurtrie par les violences terroristes et cette crise actuelle qu'elle subit ?
D'abord, c'est en se tenant aux côtés donc de ces populations éprouvées par toutes les actions caritatives qui sont menées par donc la Caritas qui est le bras secourable donc de l'Église et par aussi les autres commissions sociales. C'est aussi à travers un retour à la parole de Dieu qui est une parole d'espérance. Au sein des communautés meurtries, il y a une ferveur religieuse qui soutient donc spirituellement toutes les personnes qui sont tombées dans la précarité et dans la vulnérabilité. Le troisième aspect, c'est tout le travail que l'Église fait pour que les communautés puissent vivre donc dans la paix et la cohésion sociale. Que les contraintes du moment que nous avons à cause de ce terrorisme ne soient pas des sources donc de fractures au sein donc de la communauté. Et je peux dire que notre L'Église favorise énormément donc le dialogue interreligieux et se montre vraiment proche donc des communautés pour donc les appeler à vivre dans la belle diversité culturelle que nous connaissons ici au Burkina Faso. On espère que donc l'État pourra continuer à travailler à ce que la sécurité revienne sur l'ensemble du territoire.
Le père Constantin Safanichesere, secrétaire général de l'OCADES Caritas Burkina, était au micro de Myriam Sandouno. Terminons cette édition par notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Et c'est avec Stanislas Kambashi.
Pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine, commençons par cette nouvelle triste. un nombre record d'au moins 8 938 personnes sont mortes sur les routes migratoires dans le monde en 2024. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'ONU, qui souligne que le bilan réel est probablement bien plus élevé car de nombreux décès ne sont pas documentés. Le nombre croissant des migrants morts dans le monde est une tragédie qui est inacceptable et que l'on peut éviter, a commenté la directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations OIM dans un communiqué. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a affirmé vendredi que les menaces américaines contre son pays ne mèneraient nulle part, à l'heure où l'Iran réfléchit à sa réponse à une lettre du président Donald Trump appelant à des négociations sur les nucléaires. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour leur sommet de printemps, un sommet qui aurait dû traditionnellement être consacré exclusivement aux questions économiques. Mais l'actualité géopolitique s'impose et c'est l'Ukraine et la défense qui ont dominé les débats avec une intervention par visioconférence de Volodymyr Zelensky qui a appelé les Européens à ne pas baisser la garde devant Vladimir Poutine. Le point saillant à l'ordre du jour a donc été le besoin d'une nouvelle aide d'urgence à l'Ukraine. C'est ce que nous a dit Pierre Benazette.
La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a mis sur la table un plan pour remplir l'objectif que les Européens ont officiellement fixé, à savoir permettre à l'Ukraine d'arriver à une éventuelle table de négociation en position de force. Elle l'a répété, l'urgence est de remplir les soutes à munitions de Volodymyr Zelensky. Sur la table ce jeudi, elle demande aux 27 de mettre déjà près de 5 milliards d'euros en munitions. La Commission veut par ailleurs créer un marché unique de la défense pour que l'industrie européenne puisse répondre à toutes les commandes. Elle propose aux 27 d'arriver à rien moins que 800 milliards d'euros de dépenses de défense d'ici 2030. La Commission propose une série de pistes avec pour objectif que l'Union soit prête en 2030 pour combler les manques capacitaires pays par pays. Défense antiaérienne et antimissile, système d'artillerie, drones, guerre électronique. La Commission a recensé tous les domaines où les Européens doivent se prendre en main pour en fait remplacer les capacités pour lesquelles ils sont pour certains totalement dépendants des États-Unis. On peut évoquer par exemple les catapultes pour porte-avions ou encore le transport tactique par air et le ravitaillement en vol. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
La Corée du Nord a annoncé vendredi avoir essayé un nouveau système de missiles anti-aériens sous la supervision de son dirigeant Kim Jong-un. Le président nord-coréen qui a accueilli le même jour le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu à Pyongyang. Plus de 300 migrants vénézuéliens bloqués au Mexique sont arrivés jeudi à Caracas dans un avion affrété par les autorités de leur pays, alors que Washington exige la reprise des vols de rapatriement des États-Unis vers le Venezuela. Les 311 migrants venus du Mexique ont été accueillis par les ministres vénézuéliens de l'Intérieur, Diosdado Cabello, à l'aéroport international Simon Bolivar à Maiquetia. Cette semaine a débuté en Allemagne le procès du géant énergétique allemand RWE contre un guide des montagnes péruviens qui poursuit l'entreprise pour sa participation au réchauffement climatique. Les Péruviens accusent l'entreprise de dégrader ses conditions de vie dans les Andes par les biais de ses centrales à charbon, des conséquences qui inquiètent également beaucoup d'habitants des petites communautés locales andines. Martin Chabal.
Saúl Iuya est un symbole pour les petites communautés andines au-dessus de la ville de Huaraz. Il porte la voix de beaucoup d'habitants inquiets des effets du changement climatique. Emilio Mendes, 46 ans, accompagne ses quelques moutons et son âne dans les hauteurs, à plus de 4000 mètres d'altitude.
Quand j'étais petit, les glaciers étaient jusqu'en bas, là. Mais aujourd'hui, les glaciers s'en vont, ils reculent chaque année un peu plus, ils fondent.
Il ne monte plus toute l'année à sa ferme.
Maintenant, il fait très chaud, puis très froid. Quand j'étais petit, je vivais tout là-haut. Mais maintenant, les températures sont trop extrêmes à cause du changement climatique.
Carlos Mendoza est lui aussi agriculteur. Pour lui, c'est le bouleversement du cycle des saisons qui menace son activité.
Tout a changé. Par exemple, pour la saison des pluies, avant, ça durait 2-3 mois. Maintenant, ça dure jusqu'à mars et il y a de l'eau partout.
Le procès de Saúl Iuya, guide de montagne péruvien contre le géant énergétique allemand RWE, est un espoir pour tous ces petits villages des Andes qui voient leur quotidien changer à toute vitesse depuis quelques années. Martin Chabal, pour Radio Vatican, à Lima.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.
Contre toi et toi seul j'ai péché, délivre-moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, délivre-moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, délivre-moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, délivre-moi. Donne-moi un cœur pur.